Bienvenue sur le podcast Heureux au présent. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Chose promise, chose due, voici le rendez-vous qui s'intitule « Soyez égocentrique ». Bonjour et bienvenue sur ce podcast Heureux au présent. Si c'est la première fois que vous êtes là, eh bien bienvenue. Si ce n'est pas la première fois, bienvenue et merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, ce rendez-vous que j'avais annoncé il y a peut-être déjà plus d'un mois, « Soyez égocentrique », eh bien ce rendez-vous est arrivé. Je suis ravi de l'aborder avec vous. Parce qu'il m'a donné du fil à retordre en réflexion, d'aller-retour, de recherche, de réflexion. Je ne vais pas vous donner beaucoup de pistes, je ne vais pas vous donner de ressources, aucune ressource. Parce que je voudrais vous inciter aussi à prendre le temps de la réflexion. C'est une chose que j'aime et que j'encourage. J'avais d'ailleurs fait un rendez-vous sur « Est-ce que vous réfléchissez ?» quelque part. Je veux vraiment vous inciter à ça. Et j'ai pris le temps de réfléchir, de poser, mettre mes notes sur un papier, rayer, réagencer autrement. Et je suis en mesure aujourd'hui de vous présenter cette réflexion avec des exercices. Parce que vous savez que j'aime les exercices, j'aime que ce soit pratique et pas seulement théorique. Donc il y a des parties qui seront un peu théoriques. Restez accrochés si c'est un petit peu trop difficile. Ben voilà, vous pourrez me faire savoir dans les commentaires. En tout cas, j'ai voulu préparer quelque chose qui soit vraiment fourni. Cela dit, je n'ai aucune idée de la durée que va prendre ce rendez-vous, si ce n'est que je sais qu'il sera plus long que d'habitude. Donc, étant donné l'ampleur du contenu que j'ai à partager avec vous, il est possible que je change d'avis en cours d'enregistrement et que je dise « Allez, je m'arrête là, et puis la suite la semaine prochaine, ou bien je vous mette tout d'un bloc, je ne sais pas encore. » Entrons dans le vif du sujet. Je vais définir l'égocentrisme avec quatre aspects. Le premier, c'est que l'égocentrisme est le refus du rejet de soi-même. Une personne qui est donc égocentrique va tenir à elle-même. Le deuxième aspect, c'est que la personne égocentrique va choisir de prendre sa place et veiller à ce que sa place soit respectée, soit conservée, soit occupée. Troisième aspect, c'est que la personne égocentrique va accepter d'être elle-même, d'être soi, dans une photo du présent. Je suis moi maintenant. Et donc, à partir de là, elle pourra choisir de créer son présent à venir, ou plutôt, vous voyez, si on fait un cocktail entre présent et avenir, ça pourrait faire prévenir. Donc, elle refuse d'être dans le leurre qui consiste à vouloir faire ou être mieux sans tenir compte d'une réalité présente. Ça veut dire qu'on va vraiment partir d'une réalité présente dans laquelle on va refuser de se mentir. La personne qui vit l'égocentrisme sera donc dans cette démarche dans laquelle elle est consciente qu'il n'est pas possible d'aller quelque part sans savoir d'où l'on part. Elle est en phase avec elle-même, à sa place, à son endroit, dans son identité. Imaginez un homme qui se promenait, qui marchait sur la route et qui trébuche et se casse le coude, ce qui est particulièrement douloureux. Il est hospitalisé. Et alors que depuis de nombreuses années, cet homme avait une attache toute particulière pour les personnes qui marchaient avec des béquilles, parce qu'il trouve que les béquilles sont jolies, qu'elles sont variées, quels que soient les types de béquilles, il est hospitalisé pour son opération de la fracture du coude et lui dit « Non, je ne veux pas que l'on me plâtre le coude, je veux une béquille. Ça fait tellement longtemps que je rêve d'avoir une béquille. » Alors les médecins tentent de le raisonner, lui expliquent qu'ils ne peuvent pas lui prescrire de béquilles, que l'accident qu'il a eu nécessite une opération du coude. Mais cet homme tient tête et finit par quitter l'hôpital, sans plâtre à son bras, et va finir dans un magasin qui vend des accessoires paramédicaux et achète une béquille. Il est ravi. Il a pris soin de choisir sa béquille. Et il peut maintenant marcher avec sa béquille et à qui il lui demande, il explique qu'il a besoin de cette béquille et que ça lui fait du bien. En même temps, il reconnaît que il a mal quand il marche avec cette béquille. Et quand on lui pose la question, mais vous avez mal ? Mais oui, oui, j'ai mal, je suis tombé dans la rue, je me suis fait très très mal, je me suis cassé quelque chose, donc du coup maintenant je marche avec cette béquille. Et à qui veut l'entendre ? Donc comme je viens de le dire, il explique combien il a pris soin pour choisir sa béquille, combien il a acheté sa béquille, et qu'il est ravi, heureux de porter sa béquille. Il s'habitue à la béquille. Et il marche en boitant, finalement, avec le temps. Même si le coude continue à lui faire mal, les choses se consolident petit à petit, parce que vous savez que le corps a une capacité d'autoréparation qui est allée assez exceptionnelle. Et on s'en rend compte que, alors que sa béquille, vous savez, les béquilles qui appuient sur l'avant-bras et quand on le tient à la main, lui fait un peu mal au coude, pour ne pas dire très mal au coude, il va régulièrement dans le magasin qui vend les accessoires paramédicaux pour changer de béquille, trouver une béquille qui lui fasse moins mal au coude, peut-être avec un système de réglage qui fait que la poignée permet de faire descendre l'appui qui va sur l'avant-bras un peu plus bas, de manière à ne pas appuyer sur le coude pour ne pas souffrir. Et puis, finalement, ça ne lui va pas. Donc, il revient, il demande une béquille qui n'ait pas d'appui sur l'avant-bras, qui ne se prenne que dans la main, par exemple. Et semaine après semaine, il change d'une béquille à l'autre pour arriver à trouver une béquille qui lui aille bien. Et il trouve la béquille qui lui va bien. Il a un peu moins mal au bras. Et plus il a changé de béquille, moins sa douleur au bras est importante. Elle n'appuyait plus sur l'avant-bras et appuyait de moins en moins sur le coude, évidemment. Et puis en parallèle, son corps réparait progressivement la fracture du coude. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte que cet homme avait vraiment besoin de sa béquille, il se mettait à boiter vraiment quand il n'avait plus la béquille, et se sentait lui-même ce besoin de la béquille, et continuait à raconter le plaisir et le bienfait de sa béquille. Combien parmi nous ressemblons à cet homme ? Il nous arrive d'être en souffrance et d'être convaincus de la solution que nous avons pensée, parce qu'elle existe quelque part. Un tel fait comme ça, et l'autre marche avec une béquille, et tel autre a eu une très belle amélioration avec sa béquille. Et tout cela sans considération réelle, profonde, de qui nous sommes vraiment. Cet homme a oublié de se connecter à lui-même pour vraiment comprendre à quel point il était préférable de répondre aux besoins de son corps plutôt qu'aux besoins de ses pensées, de son désir de béquille. En se reconnectant à lui-même, en se mettant à l'écoute de lui-même, en acceptant qui il est vraiment et ce qu'il vit, quelque part en s'aimant lui-même, il aurait été possible qu'il vive mieux lui-même et par conséquent en meilleure relation aussi avec les autres. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. L'égocentrisme est essentiel à la relation à l'autre. Essentiel. On a tendance à vouloir prioriser la relation à l'autre en disant surtout ne soyez pas égocentrique, en entrant en confusion avec un autre terme qui est notamment l'égoïsme, et je m'arrêterai tout à l'heure pour faire la différence entre les deux. Ne soyez pas égocentrique, soyez altruiste. Alors que égoïste et altruiste, oui, ce sont deux entre guillemets opposés. Mais l'égocentrisme est nécessaire, il est essentiel. Je ne peux voir l'univers, je ne peux vivre mon expérience du monde qu'à partir de moi. C'est bien là l'égocentrisme. C'est que je suis le centre du monde. Ça ne signifie pas que je suis le centre du monde sur le plan rationnel, mais sur le plan subjectif, je ne peux pas être autre que le centre du monde. Je peux focaliser mon attention sur quelque chose que je considérais comme étant important, essentiel, que je vais élire comme étant central dans ma vie. Mais malgré tout, je resterai le centre de mon monde. Ça ne veut pas dire que tout doive tourner autour de moi. Mais je suis conscient que je ne peux être en relation prioritaire qu'avec moi-même et que j'ai un regard donc rationnel sur moi-même qui va se verbaliser en je. Je vois, je ressens, je pense. C'est donc ma perception. Et qu'importe ce que pensent les autres, ou quoi que pensent les autres, je ne peux avoir une perception qui ne peut être que mienne. Même si on essaie de me convaincre que ça c'est bien, que ça c'est mal, que ça c'est beau, que ça c'est grand, ça c'est petit, ça c'est chaud, ma perception sera déterminante. et elle sera même prépondérante. Je ne peux pas faire fi de ma perception. Par conséquent, un égocentrisme qui est une expérience du monde à partir de moi est incontournable. On a commencé comme ça dans le monde, dans la vie, en fait, quand on était bébé, dans les bras de nos parents, ou même dans notre linceul, landau, couffin, ou maxi-cosy, en fonction de notre génération. Bon, on a commencé égocentrique. Et c'est cet égocentrisme qui a été essentiellement acquis, nourri, parce que le monde tournait vers autour de nous, à nous regarder, à se centrer sur nous, à répondre à nos besoins, que l'on a découvert et qu'on a créé une identité. L'égocentrisme est donc nécessaire à la création de son identité, à la création de son « je ». Je vois, je ressens, je pense, j'entends, j'aime, je n'aime pas. Tout cela est une approche égocentrique. À partir du moment où vous dites à quelqu'un « j'aime beaucoup ton plat », c'est égocentrique. Vous n'êtes pas en train de lui donner une réponse rationnelle. Ce plat est bon, ce serait rationnel. Enfin, et encore, ce serait une tentative de réponse rationnelle, mais la notion de bon n'a rien de rationnel. Mais ce serait une tentative. À partir du moment où vous dites « je aime ce plat, je trouve cela joli, je trouve cela moche », c'est une expression d'égocentrisme dans la mesure où vous êtes en train d'expérimenter votre expérience du monde, de partager votre expérience du monde à partir du « je » que vous êtes. L'égocentrisme est donc un incontournable depuis le berceau jusqu'au décès. Votre capacité à vous centrer sur vos émotions, j'ai pris l'exemple « je ressens », est un témoignage d'égocentrisme. On va faire donc un cocktail de constat, « je ressens » quelque chose que mon corps me permet de percevoir et qui produit telle et telle situation en moi. Mais je sais en même temps que c'est différent chez les autres, mais dans mon égocentrisme, je ne peux pas savoir ce que ressent un autre. Je ne peux le faire que pour moi-même. Et je vais passer à une deuxième étape qui va être l'acceptation de mon émotion. C'est là aussi que bien souvent, nous avons besoin de travailler, de prendre conscience qu'il n'est pas possible de changer une émotion, de changer une perception d'émotion, de changer une action suite à une perception d'émotion, sans être dans un constat et dans une acceptation de son émotion. Que ce soit de la colère, de la tristesse, de la honte, de la peur, n'importe quelle que soit l'émotion. Si vous voulez travailler sur votre émotion, j'y reviendrai quand je ferai les rendez-vous sur maîtriser vos émotions, on est obligatoirement confronté à la nécessité de passer par le constat « Ah, c'est mon émotion, j'ai peur » et l'acceptation. À partir de là, on peut travailler éventuellement sur ses émotions pour arriver à les maîtriser. Il s'agit donc d'un prérequis indispensable. Accueillir son émotion comme elle est, c'est le constat, l'accepter pour pouvoir y travailler. Je ressens ça. J'aime cela. J'ai peur de cela. Je ressens cette tristesse, la colère, la honte et autres. Et cette capacité à être devant sa photographie de je, dans un égocentrisme, est une force. L'égocentrisme est donc une force. C'est une connexion à moi-même, c'est donc une force. À partir de ce moment-là, je peux me poser, ou plutôt vous poser deux questions. Est-ce que vous êtes dans une recherche quasi permanente de perception, de connexion à vous-même ? Ou est-ce que vous êtes dans une fuite de vous-même ? Si vous êtes dans une recherche de connexion à vous-même pour ressentir vos émotions, être à l'écoute de vos perceptions, de votre expérience personnelle, vous êtes sans doute dans cette démarche égocentrique qui est un amour de soi, une connexion à soi, une reconnaissance à soi. Or, on reconnaît, dans le sens de sans jugement, avec amour, avec bienveillance. Et par conséquent, on peut travailler, et je verrai un petit peu plus tard, je ne vais pas le développer maintenant, je vais faire étape par étape. Vous pouvez être aussi dans une fuite de vous-même, qui équivaut à une peur. J'ai peur, donc je vais fuir, j'ai peur de ressentir telle émotion, ou j'ai peur qu'on ne m'aime pas, ou j'ai peur qu'on me rejette, ou j'ai honte, donc j'ai peur que l'on me regarde. Par conséquent, je vais fuir et être dans une émotion d'explosion, où je devrais peut-être parfois ramasser les morceaux de moi ou laisser les autres les ramasser à ma place. Je voudrais vous inviter à vous interroger d'abord. Est-ce que vous êtes dans cette capacité à vous connecter à vous-même, à vous regarder vous-même? Et pour les personnes qui sont mal à l'aise avec cette idée-là, je voudrais juste préciser que je ne suis pas dans l'idée de comparaison en disant « je suis le plus beau, je suis le plus grand, je suis le plus intelligent, le plus fort ». On n'est pas dans la comparaison. On est dans « je suis moi ». Je suis moi, je suis comme ça, je ressens cela, je pense cela. J'ai telle émotion, telles envies, tels désirs, telles aspirations. Et quand je suis dans cette démarche égocentrique, je prends soin de moi. Je n'attends pas que quelqu'un prenne soin de moi. Je prends soin de moi. J'entends mes besoins. J'entends mes émotions. Je sens mes émotions qui battent en moi, qui se meuvent en moi. Et je formule mes demandes parce que je suis attentif à moi. Alors que quand je suis dans l'égoïsme différent de l'égocentrisme, l'égoïsme qui est une considération de ma propre existence en priorité ou en exclusivité, je ne considère que ma propre existence, eh bien, je vais avoir tendance à avoir peur d'être menacé, donc j'explose, j'insulte, je rejette, je fuis, et j'exige, j'impose mes demandes. Quand j'ai des besoins, j'estime que les autres devraient y répondre parce que je suis dans la considération de moi d'abord dans une forme d'exclusivité. L'égocentrisme n'est pas dans cette démarche. Il est dans une démarche de reconnaissance de lui-même, de connexion à lui-même. Dans l'égocentrisme, je peux dire, d'ailleurs, c'est intéressant parce que je pourrais prendre la même phrase sur le plan égoïste et sur le plan égocentrique. Et je vais vous laisser jouer avec cela. Vous avez un enfant qui vous dit « c'est mon jouet ». Est-ce que c'est l'égocentrisme ou est-ce que c'est l'égoïsme? Qu'est-ce qui va permettre de déterminer si c'est de l'égocentrisme ou de l'égoïsme? Quand un adulte dit « là, ici, c'est chez moi », manière de dire « je ne voudrais pas que vous rentriez », c'est de l'égoïsme ou de l'égocentrisme? Je sais que la frontière est maigre et que parfois on a tendance, pour ne pas dire souvent, à confondre les deux. Et finalement, sous couvert d'altruisme et pour paraître bien, eh bien, on va promouvoir justement l'altruisme et dire « non, c'est pas bien d'être égocentrique, de penser à soi ». Pourtant, on apprend à son enfant que le jouet qu'on lui a offert, c'est son jouet. Effectivement, le copain qui est au square, qui veut prendre son jouet, eh ben, il peut le prendre pendant un temps, mais pas partir avec, parce que c'est son jouet à votre enfant. C'était votre jouet quand vous étiez gamin, vous avez vécu ça. Et vous avez peut-être parfois mal vécu le fait qu'on vous impose de prêter, la notion de prêter n'était pas facile à apprendre, hein, parce que quand votre jouet vous quittait la main et qu'il arrivait dans la main de l'autre, vous ne saviez pas s'il allait revenir, parce que vous étiez dans le moment présent. Un enfant vit, d'accord, plus il est jeune, plus il vit maintenant, il ne sait pas si quand... Il ne verra plus son jouet quand son petit copain ou sa copine voisine aura franchi la porte de la chambre pour aller dans le salon. Il ne voit plus le jouet. Pour lui, le jouet n'existe plus. Il est donc en danger pour s'assurer que son jouet reste son jouet. Il a besoin de l'avoir sous les yeux et plus encore dans ses mains, dans une forme de contrôle. Parce que là, il y a en plus, en fonction de l'âge, une difficulté à dissocier le mon jouet et moi, hein. Parfois on est dans l'extension, quand on est dans un plus jeune âge, dans l'extension de soi, dans un objet. C'est ma maman, c'est mon papa, c'est mon extension à moi. Mais quand on devient adulte, on comprend très bien que quand je dis c'est chez moi, ben non, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer là, ici, chez moi. Vous êtes dans une propriété privée, c'est chez moi. Je comprends que je suis dans l'égocentrisme. Et heureusement que je sais définir ce qui est chez moi, ce qui est ma propriété privée. L'égoïsme serait que je veuille que ma propriété privée ne m'appartienne, enfin, m'appartienne à moi évidemment, mais ne soit utilisée que par moi. Je n'invite personne, personne n'a le droit d'y venir, personne n'a le droit d'y toucher, même de presque de la regarder. C'est pour moi, ce n'est qu'à moi, je suis le seul à en jouir. L'égocentrisme permet de dire c'est à moi, c'est chez moi, je suis prêt à le partager, mais je tiens à ce que vous sachiez qu'il y a des limites. Parce que l'égocentrisme est dans cette capacité de la construction de la propriété, de capacité de poser des limites, de définir ce qui est à moi, ce qui n'est pas à moi. On est presque dans la psychanalyse avec le soi et le non-soi, on ne va pas aller dans cette direction-là, mais je vais bien le prendre sous l'image de l'immunologie, donc notre immunité. Vous savez que notre système nerveux, notre système immunitaire fonctionne en collégialité, et donc à partir du moment où un élément est présent dans le corps et qu'il est signalé au système, on va faire plus simple, au cerveau comme étant un corps étranger, eh bien le corps va se mettre à l'attaque. On appelle ça une défense. L'immunité, c'est une défense. Mais dans notre corps humain, qu'on le veuille ou non, le meilleur moyen de se défendre, c'est l'attaque quand il s'agit de la présence d'un corps étranger. Je trouve cela intéressant parce que ça signifie que notre corps humain, notre physiologie, est programmée pour être égocentrique. Notre corps a prévu que ne doit être en son sein que ce qui lui appartient, excepté ce qu'il accepte lui-même qui entre dans son corps. Donc on est vraiment dans un égocentrisme équilibré. Je rappelle juste pour... Peut-être je donne l'information parce que la plupart des gens que je rencontre ne savent pas cela. En fait, le système digestif, de la bouche jusqu'à l'anus, c'est un circuit extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne passe pas dans le corps. Pour donner une image, c'est comme si c'était un tunnel dans une montagne. Les aliments entrent d'un côté, il y a des échanges qui se font pendant le parcours, et puis ce qu'on veut qui ne reste pas dans le corps repart. Donc on est dans un milieu extérieur. Par conséquent, il n'y a pas de réaction par rapport à un corps étranger. La réaction par rapport à un corps étranger se fait quand l'aliment ou quand la substance entre dans le milieu intérieur. Par exemple, passe la barrière intestinale alors que ça ne devrait pas y passer. Là, il y a réaction, généralement réaction allergique. Même s'il s'agit d'un aliment sain, c'est-à-dire que si la paroi intestinale est distendue et qu'un morceau de noisette ou de chocolat, je prends une image pour vous permettre de comprendre la chose, passe dans le milieu intérieur par des parties de cellules qui se sont relâchées dans la paroi intestinale, votre corps va réagir, vous aurez une infection. Ce n'est pas normal. D'accord ? Pourtant, le chocolat, tant qu'il est dans le milieu extérieur, très bien, mais dans le milieu intérieur, absolument pas. Donc là, le corps va réagir, va attaquer, et il va attaquer en créant ce qu'on appelle un phénomène allergique. C'est-à-dire qu'il va informer tout le corps après avoir envoyé les macrophages et les serial killers, etc., les cellules killers qui vont venir là pour éliminer le corps étranger. Et en plus, on va enregistrer au niveau cérébral l'information de manière à ce que la prochaine fois que quelque chose a la même identité, le corps sache comment il s'y est pris pour éliminer l'étranger et l'évacuer. C'est un phénomène égocentrique qui est naturellement programmé dans l'être humain. Nous fonctionnons donc très bien quand nous avons une réaction allergique. Nous fonctionnons très bien quand un moustique vient nous piquer et qu'il met dans notre milieu intérieur quelque chose qui ne devrait pas y être. Le système bouton avec l'irritation, le besoin de gratter et de mettre quelque chose pour empêcher que l'infection se fasse. C'est tout à fait normal. C'est donc tout à fait normal d'être égocentrique, centré sur ce qui appartient à moi, sur ce qui est mon identité et à partir de quoi je vais pouvoir définir ce qui est de moi et ce qui n'est pas de moi. Alors s'il s'agit par contre maintenant d'un corps étranger, que je reste sur cette image de l'immunologie, donc du système immunitaire, un corps étranger, un pesticide, un médicament, je ne sais pas quoi, une bactérie qui rentre, là le corps va fonctionner avec cette fois-ci la bonne réaction, ou plutôt une réaction sur le plan rationnel adaptée, parce qu'effectivement il s'agit d'un corps étranger. Même si ce corps étranger est dans le milieu extérieur, ça veut dire qu'il est dans le système digestif, qui n'est pas encore passé dans le milieu intérieur, il peut y avoir réaction. Donc là, on est dans un fonctionnement égocentrique, sain. Faisons le parallèle avec notre sujet du jour. Si dans ma vie, j'ai des situations qui sont clairement des réalités de moi, de mon identité, et que je suis bien au clair sur qui je suis, ce que je pense, ce que je ressens, et que je peux donc être bien à l'aise sur ma propre identité, je n'aurai pas de réaction particulièrement forte, violente. Je n'en aurai qu'à partir du moment où il y aura une intrusion extérieure dans ma propre vie. quelque chose d'étranger. Par contre, si j'ai une mauvaise définition de ce qui définit ma propre identité, donc un égocentrisme un peu altéré, je dirais, eh bien je risque de surréagir par rapport à des choses qui sont vraiment de moi. Et là, on pourrait utiliser l'image de la maladie auto-immune. Ça veut dire qu'en fait, je vais lutter contre une part de moi-même parce que je la méconnais. Parce qu'effectivement, le fondement de la maladie auto-immune, c'est que le corps va s'attaquer à des choses qui sont en lui et qui ont raison d'y être parce qu'elles font partie de lui. Dans notre vie, nous pouvons avoir ce fonctionnement également, de nous attaquer nous-mêmes par méconnaissance, par méprise de notre propre pan d'identité. Dans l'exemple que je viens de vous donner, j'utilise l'image de la maladie auto-immune en disant que je peux lutter contre moi-même. Mais la plupart du temps, on utilise les autres pour s'attaquer à soi-même. Finalement, on va refuser la contradiction. Quand quelqu'un va nous dire quelque chose, on va se sentir blessé, on va se dévaloriser. On peut aussi se déresponsabiliser comme pour dire que c'est à cause de l'autre. Il est le corps étranger qui a fait que j'ai réagi comme ça, etc. Hein, des conséquences. Tu m'as blessé quand tu as dit ça. C'est à cause de toi que j'ai vécu ça. Si tu n'avais pas fait ça, je n'aurais pas fait ça. Ce sont des dysfonctionnements liés à une difficulté d'identification de soi, de connexion de soi, de prendre soin de soi. Quand j'entends mes besoins, que j'entends mes émotions, je ne formule plus les choses de la même manière. Je prends conscience que ce n'est pas toi qui m'as blessé. Je me suis senti blessé. Ce n'est pas à cause de toi que j'ai fait ça. Je suis responsable de mon choix et de mon action. En entrant dans cette démarche égocentrique, je deviens plus responsable parce que je me regarde. Alors, je vous proposais justement, je vous proposais 4 jeux. 1, 2, 3, 4. Oui, ce que j'ai mis sur mes notes. 4 jeux, dont le premier, le jeu du miroir. Exercice qui consiste à prendre conscience de son identité. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'accepte de moi? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Quels sont mes complexes? Qu'est-ce que je cherche à cacher et à me cacher? Quels sont les jeux que je choisis de jouer en société? Qu'est-ce que j'essaie de faire pour donner le change, de manière à masquer une partie de moi? Et quand je masque cette partie de moi, qu'est-ce que je masque justement? Dans cette première étape, le jeu du miroir, un jeu que je vous propose de jouer par écrit sur votre cahier de vie. Si vous ne savez pas ce que c'est que le cahier de vie, allez écouter le rendez-vous qui s'intitule « Rendez-vous avec vous-même ». Et dans ce jeu-là, vous pouvez déjà commencer à travailler sur cette identité, dans ce jeu du miroir, pour vous rapprocher de vous et quelque part vous égocentrer. Même si nous sommes au début de notre rendez-vous sur ce sujet de l'égocentrisme, commencez à vous dire que peut-être ce n'est pas aussi négatif que vous aviez l'impression que c'était d'être égocentrique. Deuxième jeu, je l'ai appelé la spéléologie intérieure. Imaginez que vous vous équipiez d'une lampe frontale et puis que vous plongiez en vous-même, comme dans la série, vous savez, j'aimais beaucoup ça quand j'étais gamin, j'ai vu que ça existe sur YouTube, et d'ailleurs vous pouvez les regarder, Il était une fois la vie. C'est vraiment c'est du dessin animé qui fait une immersion dans le corps humain qui permet de voir l'humain de l'intérieur, voir comment il fonctionne, on va voir comment fonctionne le cœur qu'il bat, les cellules qui se déplacent, etc. Je trouvais ça vraiment très intéressant. C'est là que ça m'est venu, cette idée de spéléologie intérieure où avec la lampe frontale, on plonge au fond de soi et on se retrouve face à soi, face à ses émotions. Qu'est-ce que je ressens là? Ma mère m'a dit ça, mon patron m'a dit ça, mon cousin, mon voisin m'a dit ça. Qu'est-ce que je ressens là? Est-ce que c'est de la peur, de la colère, de la tristesse, de la honte? Quand c'est de la joie, en général, on ne se pose pas trop de questions, mais on peut le faire aussi pour la joie. Est-ce que je ressens une grande joie? Est-ce que je ressens de la satisfaction? Est-ce que je ressens de la fierté? Est-ce que je ressens du plaisir? Voilà, vous pouvez vous amuser à identifier ce que vous ressentez dans cette spéléologie intérieure. Peut-être vous pouvez même vous poser simplement, fermer les yeux, regarder l'heure qui vient de s'écouler, vous dire, tiens, là, je me vois en train de parler avec Paul ou Samir, avec Sophie et Sarah. Et tiens, quand Sarah m'a dit ça, Qu'est-ce que j'ai ressenti là? Où est-ce que je l'ai ressenti dans mon corps? Et imaginez encore votre lampe frontale, vous vous baladez en vous, vous allez voir si ça vous a fait quelque chose dans le ventre, dans les bras, dans la gorge, si quelqu'un vous a dit quelque chose et que vous avez l'impression, enfin que vous avez senti de la déception par rapport à ce que vous avez dit à la personne ou de la tristesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la personne a dit? Quel mot a été prononcé? Quelle formule a été prononcée qui fait que vous avez ressenti de la tristesse? Si vous avez eu peur, notez vos peurs. Et puis, identifiez les causes de vos peurs. Ah, j'ai eu peur parce que cela. Et puis, quand vous avez noté les causes de vos peurs, allez chercher les peurs de vos peurs. Je vais vous donner un exemple. Ne partez pas, je vais m'expliquer. En allant jusqu'à la peur la plus enfouie. Alors, je vais commencer justement par la peur la plus enfouie pour vous faire comprendre ce que je vais vous dire. La peur qui est présente chez tous les humains, c'est de mourir. À partir du moment où on est conscient de cela, on peut la scinder en deux. Parce qu'en fait, la peur de mourir touche à la peur de mourir sur le plan physique, que notre corps soit broyé, anéanti, et que en fait, l'intégrité physique soit atteinte et que du coup la vie soit remise en question, ou disparaisse plus exactement. Mais cette peur de mourir est aussi présente sur le plan psycho-émotionnel. On a peur de mourir aux yeux des autres. Donc de disparaître, faire qu'on ne compte plus pour eux. Et finalement, ça se rattache à la peur de ne pas être aimé, la peur du rejet. Donc là, ce sont les peurs qui sont les plus profondes, j'imagine, hein, si on fait un grand gouffre. Tout au fond, il y a la peur de mourir sur le plan physique et le plan psychique, émotionnel. Et mêlé à ça, parce qu'on ne peut pas les dénouer, hein, c'est attaché, on va dire que je vais récupérer une des deux et laisser les deux autres au fond. Donc, mêlé à ça, il y a la peur de ne pas être aimé. Donc elle est juste au-dessus, mais si je l'enlève, celle-là, les deux autres viennent avec. Et puis, au-dessus de ça, si je tire, il y a la peur du rejet. Mais c'est pareil, si j'en tire la peur du rejet, eh ben, j'enlève la peur de ne pas être aimé, puis en même temps, vient avec la peur de la mort physique et la peur de la mort psychologique. À partir de là, je peux juste centrer mon attention sur la peur qui est juste au-dessus de celle du rejet. Et commencer là à rationaliser ma peur par rapport à celle qui est juste au-dessus de celle du rejet. Par exemple, il y a un collègue qui raconte une blague pourrie et qui en plus... À mes yeux, bien entendu, hein, c'est irrationnel ce que je suis en train de vous dire là. Hein. C'est subjectif. Une blague pourrie qui, en plus, à mes yeux, humilie un de mes collègues. Je connais ma position intérieure, je connais mes valeurs, je sais identifier ce que je pense de ce qu'a dit mon collègue. Et pourtant, je choisis de ne rien dire. Pourquoi je ne veux rien dire? Si je reprends mon gouffre, tout au fond, la peur de mourir sur le plan physiologique, ben non, au travail, on ne va pas me tuer. Sur le plan physiologique. Maintenant, si je considère le deuxième pan de la peur de mourir sur le plan psycho-émotionnel, ça veut dire que je n'existe plus aux yeux des autres, de mes collègues. Ah, là, ça commence à faire sens. Et puis, juste au-dessus, je peux avoir la peur de ne pas être aimé, comme j'ai dit, qui est entremêlée avec la peur précédente. Et si je ne suis pas aimé, ben, j'aurais peur d'être rejeté. Même si mes peurs ne sont pas aussi puissantes que celles-là, juste par rapport à une blague qui a été dite sur un collègue, et avec la gêne que j'ai de me dire, purée, ils ont cherché à l'humilier, quelle pourrait être la peur qui serait juste au-dessus, avant la peur du rejet? La peur d'être moqué? La peur d'être humilié? Je sais que ça ne me tuera pas sur le plan psycho-émotionnel. Je sais que mon collègue continuera à m'aimer et que je ne serai pas rejeté, parce que peut-être... j'ai déjà vécu des expériences qui font que j'ai la croyance que je ne serai pas rejeté. Je sais donc que je ne serai pas rejeté, mais peut-être le serai-je pour 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. C'est long, 2 minutes de rejet ressenti pour certaines personnes. Ah oui. Je prends conscience, en étant égocentrique, égocentré, que dans mes émotions, j'identifie que la peur d'être ne serait-ce rejeté que 2 minutes prend une ampleur considérable chez moi. Le gros avantage de prendre conscience de cela, c'est que je peux apprendre à me connaître. Deuxièmement, en étant capable d'un regard rationnel, prendre conscience que avoir peur d'être rejeté 2 minutes alors que dans 20 minutes, on va prendre une pause café à la machine à café, on va semer une cigarette ou que dimanche, on va aller marcher en bord de la plage, eh bien, pour 2 minutes de frayeur, j'aurais peut-être pu me connecter à mes valeurs et dire, écoute, j'entends que tu as voulu faire une blague et que c'est chouette, j'aime bien, tu mets l'ambiance, j'apprécie beaucoup. Seulement, je n'apprécie pas que je suis en jeu, égocentré, connecté à mes émotions, à mes besoins, donc à mes valeurs de respect de l'autre, et je formule ma demande en étant attentif à moi, à mes valeurs, donc à moi, et par voie de conséquence, uniquement possible d'être attentif à l'autre. C'est un leurre de penser que je peux protéger les autres, être vraiment altruiste en n'étant pas capable d'être égocentré. Si je me protège moi, je saurais protéger les autres. Je prends cet exemple parfois pour les parents qui ont de la difficulté à comprendre cela. Dans un avion, si un avion, il y a une dépressurisation, on vous explique qu'il faut d'abord faire quoi ? Mettre le masque à votre enfant avant de le mettre à vous-même ? Non ! Mettez le masque sur votre visage et une fois que vous êtes équipé, mettez-le sur le visage de votre enfant. Soyez égocentrique même dans l'avion et vous pourrez ensuite prendre soin des autres. Dans l'exercice que je vous propose là pour la spéléologie intérieure, soyez dans cette démarche de connexion à vos émotions, à vous-même. Identifiez vos émotions avant d'envisager d'identifier celles des autres. Vous serez vraiment incapable d'identifier les émotions des autres. Il a fait ça parce que ça. Qu'est-ce que tu en sais ? Il a fait ça, c'est un constat. Qu'est-ce que tu ressens, toi ? Ah, je ressens ci, je ressens ça, je ressens ci, je ressens ça. D'accord, ça tu le sais. Il vaut mieux travailler sur ce qu'on sait, sur ce qu'on maîtrise. Apprendre à maîtriser ses émotions, apprendre à s'identifier, apprendre à s'entendre dans ses besoins et ses valeurs. Et c'est vraiment l'idéal pour commencer à formuler une demande. C'est pour l'instant, on n'en est pas encore là. Bon, on est dans ce deuxième exercice, après le premier qui était le miroir, où je vais me poser la question de mes complexes, de ce que je cache, de ce que je cache de moi, de ce que je cache aux autres, de mes jeux de rôle. Deuxième exercice, la spéléologie intérieure, où je vais plonger en moi pour identifier mes émotions, savoir qui je suis, ce que je ressens, pourquoi je ressens les choses de cette manière et pas d'une autre. Qu'est-ce qui se passe en moi quand ? Quelle que soit l'émotion, la peur, la joie, la colère, la tristesse, la honte, l'envie, le désir, la pulsion, quand je vois une nana ou un mec, ça me fait quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe en moi ? Je vais en spéléologie intérieure. J'ai une dépendance, que ce soit une boulimie, que ce soit une dépendance alcoolique ou autre. Qu'est-ce qui se passe en moi quand je vais en spéléologie intérieure avec ma lampe frontale pour aller, comme dans Il était une fois la vie, plonger en moi de manière à apprendre vraiment qui je suis, découvrir qui je suis. Et du coup, cesser de donner l'impression que c'est de la faute des autres, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Troisième exercice. Eh bien, c'est passer au labo. Voilà, on sort de la grotte spéléo, hop, on va au labo et on va jouer à un jeu des essais. Vous savez, les tubes à essais au labo ? Voilà, je fais exprès de vous donner ces images parce que moi, ça me parle bien. On est au tube à essais, on a peut-être la blouse blanche ou la blouse de la couleur que vous voulez. Et on va commencer à jouer les formulations. Donc, on a pris connaissance de qui on était vraiment, le miroir. On a plongé en soi pour vraiment se connecter à soi. Et maintenant, on va faire des expériences. Au labo, je vais formuler un peu de ce que je ressens. Donc, j'ai des tubes à essai variés et je vais faire des mélanges parce que parfois, c'est un cocktail d'émotions, comme j'aime bien dire. Ce n'est pas forcément que de la peur. Ça peut être un mélange avec 3 gouttes de peur, 2 gouttes de honte et 1/2 pipette de tristesse. Mais pour le savoir, je vais aller regarder, voir ce que ça produit. Je me souviens, moi, au collège, on avait parlé de le précipité gélatineux, j'avais trouvé ça génial, c'est un truc, ça se formait bizarrement dans le verre, j'ai vu que ça fait ça aussi quand on met de l'anthésite dans un peu d'eau, ça se déplace d'une manière spéciale. Faites ça, observez vos émotions au labo en faisant des essais. Et à partir de là, vous formulez. Je formule ce que je ressens et je le formule exclusivement, c'est imposé dans l'exercice au labo, en je. Imaginez que vous êtes un grand chercheur, vous bossez. Eh bien, quand vous faites votre recherche, vous dites « j'ai expérimenté ça, j'ai constaté ça, j'ai vu ça ». Voilà, c'est en « je », on ne va pas parler en « on ». Voilà, c'est mon équipe, c'est moi qui dirige, c'est en « je ». Et je passe à l'observation et je commence à tirer des formules à partir de ce que j'ai fait. Donc, je vais me donner le droit d'exister sans les autres. Comme je dis encore une fois, c'est mon équipe, c'est mon corps, c'est mon boulot, c'est en jeu. Je suis centré sur moi, déconnecté des autres. Juste en jeu. J'existe. Je ressens cela. Et donc, je formule ma demande. Comme j'ai dit tout à l'heure dans l'exemple avec les collègues, celui qui avait raconté une blague et qui trouvait que c'était drôle, alors que justement j'avais perçu que c'était humiliant pour un de mes collègues. Encore une fois, c'est une perception subjective, c'est une impression, je ne sais pas. J'ai l'impression que mon collègue s'est senti humilié, mais c'est en connexion avec mes valeurs. Moi, je trouve que... je sais pas, moi, personnellement, tout seul, je trouve que... Ça, c'est très égocentré. Donc, moi, personnellement, tout seul, je trouve que la blague pouvait avoir un caractère humiliant pour un de mes collègues. Par conséquent, je me connecte à mes émotions après avoir plongé avec ma lampe frontale et je formule une demande. J'aimerais que, ou je demande que, ou je souhaiterais que. Et là, je suis au labo dans mon tube à essai. Et je formule mes demandes les unes après les autres, ou une petite demande, une moyenne demande, pour voir ce que ça fait quand je formule une demande. Pas ce que ça fait chez l'autre, mais ce que ça fait chez moi. Je suis au labo, centré sur moi. Je fais mes expériences avec moi-même. Donc, je vais essayer. En gardant le même exemple, je pourrais prendre dire la chose comme cela. Je trouve que tu es un homme qui a beaucoup d'humour, j'apprécie beaucoup, ça donne bien de l'ambiance au boulot. J'aimerais juste que quand tu racontes une blague, tu prennes des exemples qui évitent que je... Donc, que j'ai l'impression que tu te moques d'un de nos collègues. C'est moi, je. Ah, je sais que peut-être certains d'entre vous vont dire « Oh là 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 là, ça demande trop de courage. » Alors prenez un exemple plus petit si vous voulez. Quand vous êtes à la maison le soir, dites à votre conjoint, à votre mère, votre père, vos enfants, etc. « Je ». Par exemple, peut-être quelque chose de moins engageant. J'aime beaucoup ce que tu cuisines, en parlant de mon conjoint, ou voilà, par exemple, ma mère, mon père. J'aime beaucoup le plat que tu as préparé aujourd'hui. Et je voudrais te demander si tu veux bien en préparer avec autant de qualité et de beauté en augmentant la proportion de légumes, parce que j'aimerais manger davantage de légumes verts. C'est un exemple. À vous de vous connecter à vous-même avec votre jeu du miroir de la spéléologie intérieure pour, dans votre labo, avec vos tubes à essai, commencer à expérimenter du « je ». Ce travail se fait donc à partir de mes perceptions. C'est « je », moi, personnellement, tout seul, qui pense, qui pressent et qui formule mes demandes dans ces différents tubes à essai. Et je regarde ce qui se produit. Je découvrirai donc ce que ça me fait à moi, encore une fois. Je ne vais me détacher de ce que ça fait à ma femme, à laquelle j'ai demandé de mettre davantage de légumes dans les plats, et me centrer sur moi. Qu'est-ce que ça m'a fait de lui dire ça? De quoi ai-je eu peur? Est-ce que j'ai eu peur de mourir sur le plan physique? Non. Sur le plan psycho-émotionnel, non. De ne pas être aimé non plus, d'être rejeté non plus. Alors je vais remonter pour aller voir quelles sont les peurs que j'ai eues. Du coup, je vais me retrouver à me confronter de plus en plus à mes peurs, comme dans un entraînement. Et comme j'ai appris à faire du vélo quand j'étais gamin, à force de fréquenter la peur, eh bien, je vais me familiariser avec la peur. Ça veut dire que je vais la voir, cette peur en moi qui va jaillir à un moment ou l'autre quand je vais formuler un « je », mais je vais m'y habituer et me rendre compte que finalement, ma vie n'est pas remise en danger. L'amour qu'on m'attribue n'est pas remise en question et je ne serai pas finalement rejeté aussi souvent que je pensais que je serais rejeté. Cet exercice au labo est vraiment indispensable pour que vous puissiez vraiment être à l'écoute de vous-même par rapport à ce que ça vous fait à vous. Et dans un second temps, mais seulement dans un second temps, allez vous mettre à l'écoute de ce que ça fait à l'autre quand vous formulez votre jeu. Quand je t'ai dit que j'appréciais ton plat, que je trouvais très beau et très bon, et que je souhaitais que tu y mettes davantage de légumes à l'avenir, comment l'as-tu vécu? Je pourrais écouter ce jeu. Et je entre dans un double jeu qui devient un nous. Soyez égocentrique en vivant d'abord ces trois étapes. Il y a un quatrième exercice qui arrive, mais l'exercice du miroir, de la spéléologie intérieure, l'exercice au labo et redonner de la place à vous-même pour redonner de la place aux autres ou avant de redonner de la place aux autres. Parce que si vous donnez davantage de place aux autres avant d'avoir retrouvé votre propre place, avant d'avoir, comme on l'a dit dans les quatre étapes de la définition de l'égocentrisme, de choisir de prendre votre place, d'accepter d'être vous là, au présent, et de refuser de vous rejeter, eh bien, si quelqu'un vous dit que ce que vous avez dit ne lui plaît pas, vous allez vous sentir rejeté. La capacité à être égocentrique est un moyen de limiter le risque de rejet, le risque de perception de rejet, parce que ce n'est pas parce que vous sentez rejeté que vous êtes rejeté. Vous redonnez une place aux autres uniquement parce que vous avez pris la vôtre. Si vous laissez les autres à la première place, vous risquez de leur présenter la facture un jour. C'est indéniable avec tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai été gentil avec toi et tu me fais ça à moi. Ça, c'est une conséquence du fait qu'on a laissé trop de place aux autres et qu'on s'est oublié. Ne vous oubliez pas, c'est vous qui faites la faute de ne pas être égocentrique. Vous ne pouvez pas le reprocher aux autres. Devenez donc égocentrique et vous verrez que vous donnerez aux autres la place qui leur revient ou pour être plus rationnel, vous prendrez votre place et vous laisserez les autres choisir la place qu'ils veulent. C'est l'inverse de tout faire pour plaire et d'arriver à quémander l'amour pour essayer d'exister. Mieux vaut se remplir seul pour partager l'amour. Alors, justement, on arrive au quatrième exercice que j'ai appelé le resto du cœur. Question pour introduire cet exercice, qu'avez-vous à donner ? Pour donner, j'ai besoin de me nourrir. J'ai besoin de me nourrir. Je me nourris. Je n'ai pas besoin qu'on me nourrisse. Ça, c'est quand je suis gamin. Égocentré, en dépendance complète. Mais plus on grandit et plus on apprend à se nourrir. Je présume que si vous m'écoutez là, vous êtes en âge d'aller faire vos courses. N'entendez pas que votre maman, votre femme ou votre voisin aillent faire vos courses. C'est vous qui choisissez ce que vous allez manger. Si ce n'est pas le cas, je vous laisse vous interroger. C'est bien à vous de choisir de quoi vous allez vous nourrir, même si c'est quelqu'un d'autre qui cuisine. Vous ne mangez pas tout ce qu'on vous donne dans votre assiette. Vous mangez ce que vous aimez, ce que vous considérez comme étant bon pour vous. Quand vous sentez que vous avez une allergie, vous ne le mangez pas. Mais si on vous dit « si, je l'ai préparé avec beaucoup d'amour pour toi », d'accord, je vais le manger. Non, vous ne le mangez pas. Vous avez compris que vous avez besoin de vous nourrir vous-même. Au resto du cœur, on va chercher soi-même ce dont on a besoin. Même si on demande aux autres de nous donner quelque chose, eh bien, on va chercher soi-même ce dont on a besoin. C'est la même chose. Ça rejoint l'exercice de tout à l'heure dans lequel je formulais une demande. Quelque part, c'était une manière de formuler « J'ai besoin que même quand on fait preuve d'humour, on respecte les autres, on ne se moque pas d'eux. » C'est donc une démarche qui consiste à aller chercher ce dont on a besoin. Ensuite, et uniquement ensuite, quand j'ai appris à me nourrir moi-même, que j'ai pensé à mon jeu, à mon égocentrisme, eh bien ensuite, je peux donner, je peux partager par amour. J'insiste pour dire que si je fais les choses dans l'autre sens, il y a de grandes chances que je sois dans une forme d'orgueil, d'égoïsme, où je voudrais qu'on me regarde. Regardez-moi, regardez ce que je fais qui est génial, je donne aux autres. Ce sont les personnes qui sont capables de se nourrir elles-mêmes, qui peuvent donner de manière anonyme, sans qu'on les voie, parce qu'elles se nourrissent elles-mêmes. Elles savent la valeur de leur propre acte. Elles n'ont pas besoin d'une foule qui les applaudisse. Ça me fait penser au sketch de Gad Elmaleh. Je crois que c'était « Papa est en haut », dans lequel il explique que les pères, quand ils se lèvent la nuit pour donner le biberon à leurs enfants, ils ont envie qu'on les applaudisse, qu'on les acclame, alors que les mères le font de manière tout à fait naturelle, sans chercher d'approbation. Si vous ressentez ce besoin tout particulier de vous retrouver devant une reconnaissance extérieure, vous savez que vous ne vous nourrissez pas vous-même. Nourrissez-vous vous-même et vous verrez que vous aurez moins besoin qu'on vous acclame, qu'on vous applaudisse, qu'on vous dise « Oh, c'était génial, oh, c'était bon, c'était sublime !» Au resto du cœur, vous fabriquez, vous récupérez, vous allez chercher ce dont vous avez besoin. Deux personnes qui sont rachitiques en amour seront davantage dans la demande que dans le don. Deux personnes qui sont généreuses en amour vis-à-vis d'elles-mêmes seront davantage dans le don. Elles seront dans la demande, parce que l'amour implique de savoir prendre conscience de ses besoins, et donc d'aller demander quand on a besoin. Mais on va être plus facilement dans le don, sans présenter de facture derrière en disant « Voilà, vu ce que j'ai fait pour toi, quand même, tu pourrais faire ceci et cela pour moi. » Sans demander que la foule se lève et nous fasse là ou là quand on a fait telle ou telle action que l'on considère comme étant bonne et digne de louange. On va être capable d'une auto-gratification en disant « Là, je suis ravi, j'ai fait du bon travail, j'aime bien ce que j'ai fait, ou c'est très chouette, j'ai été vraiment dans le cadre de ce que je voulais, ça correspond à mes valeurs, je souhaite que les gens soient satisfaits, s'ils ne sont pas, ben voilà, j'ai fait de mon mieux. » Et on va être dans une autre dynamique. Alors certains me demandent « Mais comment se nourrir soi-même ?» Ben, peut-être déjà, si vous écoutez ce podcast, c'est un signe que vous êtes dans la dynamique de vous nourrir vous-même. Alors, je vous dis d'abord, continuez. Vous êtes sur la bonne voie. Vous avez déjà compris comment vous nourrir vous-même. Vous pouvez le faire en allant écouter ce que les autres que vous estimez qui se sont enrichis ont à partager avec vous, que ce soit par ce podcast ou par d'autres. Vous pouvez le faire par des lectures, par la nourriture de pensées positives. Vous pouvez le faire aussi dans la découverte de vous-même, de vos limites, de vos forces. Donc, avec cet exercice de spéléo, vous allez vous retrouver pour aller prendre le temps de vous regarder vraiment. On appelle cela la méditation. Regardez-vous. Regardez le monde. Percevez vos forces. Percevez vos limites. Ce qui vous fait du bien. Ce qui vous ouvre, vous épanouit. Ce qui vous fait rayonner et déborder. C'est important de regarder les forces et les limites. C'est excellent d'avoir des limites. Parce que prendre conscience des limites que l'on a nous permet d'être à notre place. Si votre voisin se brosse les dents et se rase avec la brosse à dents, vous allez comprendre qu'il n'a pas eu la capacité d'identifier les limites de sa brosse à dents. Prendre conscience de ses limites est indispensable pour être à sa place et faire les choses avec les bonnes choses. Attendre de l'autre ce qu'il peut nous donner aussi et en même temps, être capable d'aller demander ce que l'on ne peut pas faire ou avoir. Votre chien ou votre chat ne pondra pas d'œuf. Il a ses limites. C'est inhérent à sa nature. Vous l'avez accepté comme ça. Vous avez vos limites. Acceptez-les comme ça. Je sais que votre voisin, votre voisine ou votre collègue a des compétences que vous n'avez pas. Ben, vous avez vos limites. Et lui a les siennes ailleurs dans d'autres domaines. Acceptez votre domaine de compétences. Acceptez vos limites dans votre domaine de compétences. Acceptez que votre voisin et votre collègue aient des compétences que vous n'avez pas et admirez-les, ces compétences qui sont ailleurs chez un autre. Et puis quand vous en avez besoin, demandez-les. Et vous allez voir que votre capacité à être égocentrique vous permettra d'identifier qui vous êtes et vos limites et par conséquent à aller demander de l'aide sans avoir l'impression que vous êtes menacé, que vous risquez de disparaître et que vous serez rejeté si vous demandez de l'aide et que votre valeur est impactée si vous avez demandé de l'aide parce que vous n'avez pas les compétences. L'impact sur les valeurs est en relation avec la peur de disparaître et de ne pas être aimé. La notion de valeur est en relation avec l'amour. Je voudrais vous inciter, vous inviter, c'est très rare, c'est la première fois peut-être que je le fais depuis le début de ces rendez-vous heureux présents, un engagement. Je voudrais vous demander de vous engager à refuser l'égoïsme et à choisir l'égocentrisme. Un égocentrisme engagé avec les quatre exercices que je vous ai donnés, le miroir, la spéléo intérieur, le labo et le resto du cœur. Que dans ces quatre exercices-là, vous soyez dans une vraie dynamique de pratique de l'égocentrisme en étant conscient que c'est indispensable pour vous de vous considérer en premier. Ça ne veut pas dire de vous considérer seul comme l'égoïste, mais de vous considérer en premier comme un présage d'une capacité à considérer l'autre ensuite, à créer le bonheur, à partager, à recevoir et à aimer. Juste un exemple, quelqu'un qui n'est pas dans un égocentrisme et qui, par contre, veut s'installer dans l'orgueil, aura de la peine à recevoir de l'aide, aura de la peine à recevoir le cadeau de quelqu'un. Il m'a offert ça, il faut que je lui donne quelque chose. Parce qu'on aura l'impression que ça joue sur notre propre valeur. Alors que si on est dans l'égocentrisme et qu'on a conscience d'avoir un manque, parce qu'on a pris connaissance de ses limites, on a pris connaissance de soi, de ses besoins, de ses émotions, même sans aller formuler de demande, quand quelqu'un viendra nous offrir quelque chose, on va pouvoir l'accueillir en disant « Je te remercie, vraiment, j'apprécie ce geste. » Et ça me, voilà, je suis encore en je. Je vous ai incité à chercher à vous connaître. Je vous renvoie vers le rendez-vous qui s'appelle « L'image de soi », le premier dans lequel il y a des exercices pour y travailler. Mais je voudrais aussi vous proposer de le faire avec une autre dynamique qui est de travailler à la découverte de soi, à chercher à vous connaître dans la perception de soi. Donc on n'est plus dans toute la totalité de l'exercice qui est présent et téléchargeable gratuitement sur le rendez-vous l'image de soi, mais on est dans une perception de soi, on va se connecter à soi ici et maintenant, sans projection. Finalement, je ne me pose pas de questions pour savoir qui je veux être demain, qui je serai dans 5 ans. C'est maintenant qui je suis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vis. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui ne me fait pas du bien et que je vais lâcher. Maintenant. C'est comme si je tournais un film en boucle, vous savez, comme les battements de mon cœur, comme les inspirations et les expirations. Je prends conscience de chaque inspiration, de chaque expiration. Je prends conscience de chaque émotion qui naît chez moi, qui jaillit, qui se meut, qui augmente, qui diminue, comme si je l'imaginais avec des vagues, des ondes, comme bon vous semble, en étant vraiment centré sur vous, sur vos pensées et vos émotions. Peut-être que sur vos blessures et sur vos bonheurs. Et là, je vous renvoie encore à votre cahier de vie, travailler sur par écrit, pour peut-être écrire vos blessures et vos bonheurs dans un premier temps. Et quand vous avez pris le soin d'écrire vos blessures et vos bonheurs, sans vous mentir, sans se mentir bien sûr, de prendre le temps d'écrire vos joies, vos peurs, vos colères, vos tristesses et vos hontes. Encore une fois, sans vous mentir. L'intérêt est que vous puissiez apprendre à vous connaître et à vous ressentir comme vous êtes, à vous centrer sur vos perceptions. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, ce sont vos perceptions. C'est votre. Vous êtes le centre du monde dans votre capacité de perception. Centrez-vous sur cela. Prenez-en connaissance sans jugement, avec la plus grande bienveillance qui soit, en vous disant « je perçois ça, je ressens cela, voilà mes peurs, voilà mes joies du moment, voilà mes colères en ce moment, voilà mes tristesses et mes hontes. » Et dans ces 5 colonnes d'émotions, il peut y avoir des émotions qui datent. Je parlais des colères, des tristesses ou des hontes. Je dis du moment, mais peut-être qu'elles sont installées là depuis longtemps et qu'elles sont encore présentes dans le ici et maintenant. Notez-les, prenez-en connaissance, sans vous mentir. Personne ne vous regarde. Vous êtes là, vous seul, face à vous-même. Accueillez-vous dans votre réalité. Une fois que vous avez terminé cet exercice, qui va vous prendre une bonne heure à peu près, et si besoin est, faites-le en plusieurs fois, eh bien vous pourrez commencer à rassembler qui vous êtes. Une fois que vous avez fait cet exercice, vous pouvez revenir sur les 4 que je vous ai présentés au début, le miroir, la spéléologie intérieure, le laboratoire et les restos du cœur. Vivez-les vraiment avec intensité pour créer votre bonheur. Il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Je vous remercie d'avoir été présent pour ce rendez-vous et je voudrais vraiment que vous profitiez de cette heure que nous avons passée ensemble. C'est la première fois que je vous propose un rendez-vous qui dure une heure. Ben que vous en profitiez pour vraiment travailler, pour devenir plus égocentrique, vous regarder, apprendre à vous aimer, à vous apprivoiser et à nourrir votre amour et par conséquent votre bonheur. Pour ne pas changer, j'attends vos étoiles sur les réseaux sociaux, j'attends vos commentaires, vos questions, vos remarques et je vous souhaite vraiment du bonheur. À bientôt.